Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Tout autre chose. Samedi dernier, un millier de personnes ont manifesté à Paris pour dénoncer des cas d'esclavage en Libye, réagissant à la diffusion la semaine dernière d'un reportage de CNN montrant des migrants vendus aux enchères en Libye. On en écoute un extrait.
Un homme s'adresse à une foule invisible.
Big strong boys for farm work.
Ce sont des garçons grands et forts pour les travaux de la ferme. 400 dinars.
700.
Qui dit mieux, 700 dinars? 700 dinars? 800 dinars.
The numbers roll in. These men are sold.
Cet homme a été vendu pour 1200 dinars libyens, soit 400 dollars.
You are watching an
auction. Vous regardez une vente aux enchères d'humains. Un autre homme, prétendant être un acheteur, tout cela hors caméra, demande « Qu'est-ce qui est arrivé à ceux du Niger ? Ils ont été vendus. »
Un reportage qui a suscité beaucoup d'émotions alors que l'Union européenne entend coopérer avec les autorités libyennes dans la gestion de l'arrivée des migrants. La situation des centres de détention empire et l'économie migratoire profite du chaos post-Kadhafi. Alors, on va essayer de comprendre la situation sur place en compagnie de Patrick Mzadeh. Bonjour. Vous êtes ancien diplomate, chercheur indépendant, spécialiste de la Libye et vous avez publié « Au cœur de la Libye de Kadhafi » chez Lattès. Vincent Hugeux à côté de vous, grand reporter à l'Express, vous venez de publier une biographie de Kadhafi chez Perrin. Ce que l'on vient d'entendre, est-ce un cas absolument isolé, Vincent Hugeux, ou bien a-t-on affaire à des ventes d'esclaves comme ça, si près de nos côtes ?
D'abord, le phénomène était connu, il avait été dénoncé, notamment par diverses ONG. Il est d'ailleurs assez insolite de constater qu'il a fallu l'écho, l'impact considérable de ce reportage pour que le vice-premier ministre du gouvernement dit d'Union nationale de Tripoli annonce, c'était hier dimanche, l'ouverture d'une enquête. Comme si tout soudain, on découvrait un phénomène inconnu. Évidemment, non. Il y avait par exemple un centre près de la ville de Sabratha où il y avait des milliers de migrants qui étaient retenus. Ce qui complique un peu la donne, c'est que vous avez des centres dits officiels qui sont censés être gérés, centres de détention ou de rétention, on les appellera comme on voudra, censés être gérés par ce fameux et très fragile et précaire gouvernement d'Union nationale. Mais vous avez aussi des maquignons locaux, des milices qui ont leur propre centre privé et qui donc font très clairement du trafic d'êtres humains.
Oui, alors, d'abord, je crois qu'il faut remettre aussi en perspective, quand on parle de l'État libyen ou du Premier ministre, c'est des gens qui ont une autorité très faible. Il n'y a pas d'institution en Libye. La situation, elle est de ce niveau. Et donc, quand on parle au vice-premier ministre, c'est un monsieur qui a aucune autorité sur personne. Donc, ça veut pas dire grand-chose. Il faut savoir qu'en ce moment, les Libyens, la situation est extrêmement difficile également pour les Libyens. Hein, ils peuvent partir plus d'un certain nombre, un montant de dinars dans les banques par semaine. Donc il y a un gros problème de cash. Hein, ils ont des coupures d'électricité. Les prix sont. Il y a un taux d'inflation énorme. Et donc je dirais que voilà la situation des migrants, des pauvres étrangers. Souvent même les centres qui sont censés gérer ces gens n'ont pas les moyens de les nourrir, hein. Donc c'est pas que des mauvaises personnes qui gèrent ces centres, mais simplement ils se sentent aussi totalement délaissés par ce qui fait office de pouvoir central. Alors bien sûr il y a des gens qui les exploitent, il y a aussi des Africains qui exploitent eux-mêmes leurs compatriotes, hein. Et ça c'est très fréquent puisque les gens des pays d'origine savent qui contacter, par exemple dans les pays quand on demande des rançons, et c'est des exploitations ou des trafics qui se font aussi par les gens de leur propre fratrie, je dirais.
On va essayer justement de comprendre un peu la situation des migrants. Combien y en a-t-il sur place? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Vincent Hugeux, est-ce que vous pouvez nous retracer les étapes qui ont conduit à cette catastrophe?
Alors d'abord, rembobinons le film. Le sort des migrants, notamment des migrants africains, n'a jamais été enviable en Libye. Et surtout pas sous la Libye de Muammar Kadhafi. Moi, je me souviens de très longues conversations dans les arrière-boutiques du souk de la Médina de Tripoli ou d'ailleurs, où après une razzia, un quasi-pogrom, il y en a eu notamment au tournant du nouveau millénaire, eh bien ces gens-là se planquaient. Vous expliquez à quel point le rêve de l'Eldorado libyen s'était fracassé, n'avait plus de passeport, etc., etc. Donc, le grand discours de Kadhafi comme nouveau prophète du panafricanisme triomphant relève, à mon sens, de l'imposture. Cela posé, il est vrai que la situation de chaos... Alors, évidemment, le mot de chaos libyen est un raccourci commode. Bon, mais il faut l'incarner, ce chaos, il faut l'expliquer. Et par exemple, bon, aujourd'hui, deux parlements ou 6 mini-parlements et 3 pseudo-gouvernements, concurrents, rivaux, etc. Bien. À partir du moment où tout s'effondre, vous avez effectivement cette obsession de beaucoup d'Africains de traverser la Méditerranée. Il y a plusieurs voies qui sont plus ou moins accessibles selon les accords. Je pense bien sûr à l'accord passé avec la Turquie, qui d'une certaine manière a fermé un peu le robinet de ce côté-là. Bien. Donc il reste ces migrants qui arrivent par exemple de la zone sahélienne, et pour lesquels eh bien, la Libye est une zone de transit quasiment incontournable. Et donc ils sont à la merci de tous ceux qui ont un intérêt à... vendre leurs bras, leur force de travail, comme ce fameux documentaire de CNN le relate. Donc voilà, on est dans un non-État, et là on y reviendra sans doute. N'oublions pas que Kadhafi lui-même était obsédé par la dissolution des institutions. Hein, c'est un Lénine des sables qui a beaucoup dissous l'État, le gouvernement est plus souvent qu'à son tour, etc. Et d'une certaine manière, la Libye elle-même. Donc on est dans cette sorte de vertige, de ce vide absolu qui laisse la main à ceux qui ont le pouvoir, et le pouvoir c'est la puissance, la violence, légitime ou pas, les armes.
Patrick Hamzadeh, est-ce qu'on sait combien ils sont, ces migrants? Pourquoi aujourd'hui sont-ils dans cette situation-là?
C'est difficile de faire une évaluation aujourd'hui. Enfin, en 2011, à chute du régime, il y avait environ un million de travailleurs étrangers. Alors, bon, certes, leur situation n'était pas enviable, mais moi, je mets un petit bémol. Il y a quand même énormément de gens qui venaient en Libye pour travailler, qui pouvaient envoyer de l'argent à leur famille. Alors, certes, ils travaillaient dans des situations difficiles, mais 90%, voire plus, des migrants, enfin, des gens qui venaient en Libye, c'était pas pour passer en Europe. Hein. La grande différence maintenant, c'est qu'il y a effectivement, il y a encore des gens qui viennent parce que la réputation demeure que la Libye est une terre où on peut travailler. Donc il n'y a pas que des gens qui viennent pour passer en Europe. Simplement, ils se trouvent bloqués par les conditions économiques, par le manque de perspectives de travail, par la possibilité de changer en devise dure les dinars libyens qu'ils ont gagnés pour envoyer à leur famille. Et donc, ils se trouvent, effectivement, sans autre échappatoire que de demander à passer en Europe. Donc, les chiffres, oui, ça doit être aux environs de 500 000. Mais encore
est-ce que
une
ces
fois,
500 000 sont dans la situation?
Non, encore une fois, je pense que tous ne veulent pas passer en Europe. Hein. C'est souvent. Et puis, alors, là aussi, il y a.
Mais les cas d'esclavage, enfin bref, ce qu'on a montré, est-ce que ça concerne.
Si vous voulez, l'esclavage, là aussi, il n'y a pas de droit du travail en Libye. Donc, on est comme au Moyen-Âge où on vient chercher les gens à la journée. Il y a des journaliers qui attendent, on les prend et on les ramène le soir et on les paye ce qu'on veut bien leur payer. Donc, ça, effectivement, ça existait déjà avant. Les gens, encore une fois, je dis certains, ils trouvaient leur compte, hein, parce que ça leur permettait quand même de renvoyer de l'argent chez eux. Mais l'esclavage, je dirais que, oui, ils peuvent plus partir, mais enfin, on les a pas non plus amenés de force en Libye. Hein, c'est...
J'ajoute d'ailleurs à ce sujet qu'une dépêche vient de tomber, laquelle explique que la France va accueillir les premiers réfugiés évacués de Libye par le HCR au Niger, vient d'annoncer Pascal Brice, le directeur général de l'OFPRA, l'Office français de protection de réfugiés et des apatrides. Vincent Huger, un commentaire.
Oui, tout simplement, en contrepoint de ce qui vient d'être dit, il y a une scène de la vie quotidienne tripolitaine ou autre, où vous avez effectivement sous les grands échangeurs de béton, autoroute, etc., des groupes de migrants africains qui sont là, qui attendent tôt le matin. L'un a un marteau en main, un autre une pelle, une truelle, etc. Et vous avez une camionnette qui s'arrête et hop, on les embarque pour la journée, 2 jours, 3 jours, le cas échéant. Et donc, c'est vrai que c'est aussi ça qu'ils étaient venus chercher. Simplement, il y a eu, me semble-t-il, une dégradation assez spectaculaire de l'atmosphère générale. Et il y a aucune inhibition par rapport à la violence et la réduction à l'état d'esclave aujourd'hui.
On en vient donc à cette situation de chaos libyen, c'est quasiment une tautologie. Aujourd'hui, qui gouverne Tripoli, Patrick Hamzadeh?
Alors, officiellement, donc, comme vous l'avez dit, il y a un gouvernement dit d'union nationale qui a été mis en place avec sous la pression forte des Nations Unies et de la communauté internationale, entre guillemets. Alors, faut savoir que ce gouvernement d'union nationale dispose du soutien tout à fait souple, hein, je dirais, des grandes milices qui contrôlent Tripoli, hein, qui se partagent la ville sur des critères géographiques par quartier. Donc elles ont fait allégeance il y a un peu plus d'un an à ce gouvernement d'union nationale, moyennant bien sûr rétribution. Hein, donc ces gens-là, donc je dirais que ce gouvernement national les contrôle autant que les milices le contrôlent.
Hein, on sait combien il y a de milices dans tout le pays ?
C'est difficile à dire, parce qu'en fait, une milice, ça peut aller d'une vingtaine d'hommes à 2000 hommes. Hein. Donc, y en a sûrement plusieurs centaines. Hein. Par exemple, simplement, il y a une... À Tripoli, il y a un petit peu une loi darwinienne qui fait que s'il y avait 200 ou 300 milices à la chute du régime en 2011, maintenant, on a 4-5 grandes milices qui contrôlent la ville. Donc, quelque part, les plus petites milices ont été finalement éliminées ou phagocytées. Et là, maintenant, il reste vraiment des grosses milices que certains comparent à un État dans l'État, finalement. Parce qu'il y a une vraie économie et un vrai monopole légitime, enfin, ou pas, de la violence.
Vincent,
en l'occurrence, des micro-États dans un non-État. Pour vous donner un exemple, un peu anecdotique, mais à mon sens éloquent, de cette fragilité que Patrick Aïmzadeh vient d'évoquer à l'instant, de cette précarité d'un semblant de pouvoir. Au printemps 2016, je vais à Tripoli et j'obtiens donc un entretien avec le fameux Premier ministre, Fayez al-Sarraj, reconnu censément par la communauté internationale, même si celle-ci ne manque pas également d'entretenir des liens avec son grand rival de l'Est, le maréchal maintenant, puisqu'il s'est attribué cette dignité, Khalifa Haftar, un ancien d'ailleurs de l'armée de Kadhafi lors de l'aventure tchadienne des années 80. Bien. Eh bien, figurez-vous que je suis reçu, non pas à la primature, dans son bureau, je suis reçu dans un bureau du port de Tripoli, où d'ailleurs il a été infiltré nuitamment à bord d'un navire pour éviter que qui que ce soit sur la capitale s'oppose, y compris physiquement, à son arrivée. Et d'ailleurs, à l'époque, et ce sera encore vrai pendant des mois, la question est de savoir si, oui ou non, le ministre des Affaires étrangères va pouvoir prendre possession des locaux de son ministère ou pas. Donc voilà ce qui vous donne une idée assez précise de la réalité du pouvoir de ce Premier ministre, tout reconnu qu'il est.
Alors, est-ce que ça signifie aujourd'hui qu'il y a une sorte d'équilibre de la terreur entre ces différentes milices ? On parlait de deux pouvoirs, et d'après ce que vous dites, Patrick Aïmzadeh, la situation est beaucoup plus complexe. On voit donc une situation de grande désorganisation avec différentes milices. Vous disiez 4 ou 5, mais c'est de toute façon un regroupement. Est-ce qu'un pays peut tenir comme ça ? Ou bien est-ce que l'on a une Somalie à nos portes ? Puisque c'est finalement une dérive à la somalienne que vous évoquiez, avec une situation d'esclavage qui, disiez-vous, doit être rapprochée d'une situation globale de chaos absolu.
Alors non, moi je ne suis pas aussi pessimiste et je pense que pour l'instant, enfin la comparaison avec la Somalie est pas la plus pertinente. Je pense qu'on a encore des institutions en Libye. Il faut savoir qu'il y a la NOC, c'est la National Oil Company, donc on exporte du pétrole. Cet argent arrive dans les caisses de la Banque Centrale, donc il y a encore des institutions qui fonctionnent. Il y a la compagnie d'électricité, il y a la compagnie des eaux. Donc si vous voulez, il y a quand même des choses qui ont survécu et qui fait que bon an mal an, malgré la fragmentation extrême du pays, malgré la division entre Est et Ouest, etc., il y a encore des choses qui font, qui tiennent. Voilà. Le tissu social aussi a finalement relativement bien survécu, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cas de violence extrême comme on peut avoir en Syrie ou en Irak, ou même à l'époque de la guerre.
Ça veut dire qu'on peut aller par exemple
90.
À Tripoli.
Oui, il y a un niveau de violence qui est contenu. Vous avez un pays où vous avez plus d'un million d'armes en circulation
qui ont été pillées
sur 5 millions d'habitants et un niveau de violence aussi faible, ça prouve qu'il y a quand même finalement quelque part des limitations à cette violence. C'est pour ça que je parle pas de chaos. Il y a une rationalité des acteurs, c'est-à-dire que les acteurs poursuivent des objectifs qui se comprennent, hein, qu'ils soient politiques, économiques, de protection de leur communauté. Donc c'est pour ça que j'aime pas tellement le terme chaos. Et puis la dernière chose, je pense qu'on est dans un processus de reconstruction politique. Donc bien sûr, ça va prendre du temps. Je suis parfois assez pessimiste, mais je pense que on a encore des ceintures de sécurité qui font que le pays n'a pas totalement basculé. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, mais on en parlera après.
Mais c'est pas complètement perdu, d'après ce que vous dites, Vincent Hugeux. Votre opinion à ce sujet?
Tout simplement, je crois que la Libye, et nous y reviendrons sans doute, paye aussi les arriérés d'une sorte de déconstruction politique. Alors des institutions soit, mais en l'occurrence ce sont plutôt des institutions économiques que des institutions démocratiques dont on parle, qui sont ces survivances-là. Or, on a quand même aujourd'hui une population qui est l'héritière d'une période où un homme a concentré, quoi qu'il en dise d'ailleurs à l'époque, la réalité de tous les pouvoirs, a asséché en quelque sorte le marigot politique. Mmh. Et donc c'est dans ce grand vertige là aussi qu'il faut réinventer un mode de vivre ensemble qui, à mon sens, c'est quand même beaucoup, beaucoup délité.
C'est ce que vous expliquez dans la biographie que vous venez de signer, une biographie de Kadhafi, Vincent Hugeux, qui est disponible chez Perrin. Et on va revoir, Patrick Mzadeh, la rationalité des acteurs, autrement dit la manière dont la manne pétrolière est utilisée, répartie, dans quelle mesure elle constitue un enjeu et comment les deux pouvoirs, il y en a beaucoup plus, mais en tout cas facialement il y en a deux, comment ces deux pouvoirs cherchent à occuper le terrain.